nous remarquons que le noyau, le centre de l'œuvre de la rédemption est décrit et est chanté dans ces cantiques, le sang de l'agneau. Pourquoi est-ce que il fallait que ce soit du sang? C'est parce que l'homme qui était de chair et de sang est tombé dans le péché. Ève a été séduite. Adam a été attiré dans la chute. La chute de l'homme a donc eu lieu dans un corps de chair et de sang. Et c'est pour cette raison que le Rédempteur, le Sauveur, devait quitter sa gloire et venir dans un corps de chair et de sang, naître dans ce monde pour ici verser son saint sang, son précieux sang, dans lequel la vie éternelle, la vie divine était, pour la verser pour nous, pour que sur le troupeau, sur la troupe rachetée par le sang, la vie qui était dans ce sang revienne. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Chantons encore le cantique 6. Ensuite, le frère Müller va nous lire une parole pour l'introduction. Cantique 6.
Auf dem Wort des Königs Jesus Christ. Lied Nummer 6.
Cantique. Moi aussi, je voudrais vous saluer fraternellement dans le nom prêché de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que je peux de nouveau être parmi vous. Nous sommes servis richement, que ce soit par l'Internet ou même par les cassettes et les DVD, mais quand de nouveau nous sommes parmi vous, nous voulons exprimer par cela notre liaison, notre relation intime avec l'Église. Ici. Et je voudrais, pour l'introduction, lire une parole ici dans Luc. Luc, le chapitre 4, à partir du verset 17.
Da reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja.
Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Mais bien aimé, le Seigneur pouvait dans tous les temps montrer l'accomplissement des Écritures. Les siens pouvaient reconnaître l'accomplissement de ces Écritures. Mais il y avait des gens charnels, malheureusement. Mais il est dit ici au verset 22, et tout lui rendait témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Quel tragédie, mais bien aimé, et je suis tellement reconnaissant de ce que nous vivons dans un âge prophétique et que les Écritures devant nos yeux, devant nous s'accomplissent, on pourrait lire beaucoup de choses. Ce n'a pas l'importance où nous ouvrons les Écritures. Je voudrais me résumer, mais pensons à cela, que ce soit dans Zacharie, alors que le message s'était adressé à lui, il ne le croyait pas. Alors qu'il avait reçu l'ordre que cet enfant marchera devant le Seigneur et conduira beaucoup parmi Israël, les ramènera à l'Éternel et il marchera dans la puissance de l'Esprit d'Élie. Et plus tard, mais quand Zacharie fut rempli de l'Esprit, il a dit au verset 56, Luc chapitre 1, au verset 76, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Ça, c'est le ministère d'un prophète, pour préparer les voies de l'Éternel et montrer au peuple de Dieu le salut de l'Éternel. Luc 1, verset 76. Mais bien, mes frères et sœurs, dans notre génération aussi, les Écritures se sont accomplies. Et nous avons seulement besoin d'un peu de patience jusqu'à que le reste s'accomplisse. Oh, comme c'est merveilleux quand on lit les Écritures et qu'on peut les suivre. C'est une gloire. Pensons alors que Jean se tenait là et qu'il a dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser d'eau. Mais bien, frère, même un prophète, il faut que ce que Dieu fait dans son royaume soit, il faut que ça lui soit révélé. Il disait, je ne le connaissais pas. C'est ainsi que subitement, ils ont laissé Jean et ils ont suivi Jésus. Après que Jean ait dit, voici l'agneau de Dieu, voici le fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons trouvé celui dont les prophètes ont écrit. Mais bien aimé, quel est notre témoignage? Avons-nous trouvé celui dont les prophètes ont écrit pour cette époque dans laquelle nous vivons? S'ils ne l'ont pas encore trouvé, nous voulons le chercher de tout notre cœur. Le Seigneur a dit, cherchez-moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver de vous. Oh, mon cœur brûle. Il est rempli. Alléluia. Qu'il puisse nous bénir. Amen. Alléluia. Oui. Nous nous levons pour la prière. Nous demandons au frère Rousse encore de dire quelques paroles et de prier avec nous. Nous sommes heureux et reconnaissants pour ce jour de grâce que nous pouvons avoir encore ici aujourd'hui et que nous pouvons être ici. Je crois que nous avons déjà été bénis. Si nous avons suivi, et il continuera encore à nous bénir, il continuera encore à nous bénir si nous ouvrons nos cœurs et que nous recevons sa parole et lui apportons aussi la reconnaissance pour cela. Nous voulons prier. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour cette grâce que tu nous as accordée et tu nous as agréé et tu nous as accordé ta parole par ta grâce, Seigneur. Comment est-ce que nous ne devrions pas élever ton Saint-Nom et te louer, car tu es digne qu'on puisse t'honorer, prosterner dans la poussière. Bénis tous ceux qui sont venus à cette réunion et tous ceux qui ne pouvaient pas venir, mais peut-être qui nous écoutent, que tu puisses avoir ton chemin. Nous te le demandons dans ton merveilleux nom. Bénis particulièrement notre bien-aimé frère Frank. Accorde ta grâce. Nous te le demandons dans ton merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Viens du haut des cieux, viens Esprit du Seigneur. Ceci est le jour. Et encore, tu es digne, tu es digne.
Amen.
Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons des salutations à remettre de beaucoup de frères de beaucoup de pays. Il y avait eu des appels téléphoniques de ceux qui, hier soir, nous ont écoutés en direct. C'était une grande joie sur les différentes corrections dans les Saintes Écritures. Et nous demandons à Dieu sa grâce, qu'il puisse continuer à être avec nous et à nous parler et à réellement nous conduire dans toute la vérité. Ceci est le jour après que les prophètes... Ceci est le jour que les prophètes ont désiré voir, comme déjà autrefois, encore aujourd'hui, beaucoup de prophètes et de justes auraient bien voulu être ici. Ils ont prophétisé concernant la grâce qui viendrait, mais ils ne l'ont plus vue. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, l'expérimenter, la voir. Ensuite, nous avons aussi une présentation d'enfants, et ensuite, nos sœurs vont nous chanter un cantique, et nous allons rapidement présenter quelques frères, particulièrement notre frère de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, qui là-bas, avec l'aide de Dieu, s'occupe de l'œuvre et qui a une grande responsabilité, et aussi tous les autres frères qui sont ici aujourd'hui, le frère Inodi d'Orléans, nos frères de Paris, oui, nos frères de tous les pays voisins. Particulièrement, nous nous réjouissons de ce que nos amis de la Finlande sont ici aujourd'hui, de la Suède sont ici aujourd'hui, et bien sûr aussi de toute l'Europe de l'Est, de la Pologne, de la Tchèque, de la Slovaquie, et aussi bien sûr de l'Autriche, de la Suisse, de la Belgique, de l'Hollande, et bien sûr aussi de d'autres parties du monde, l'Italie, et ensuite nos frères de l'Afrique, de l'Amérique du Centre et du Sud. Que Dieu vous bénisse très particulièrement. Nous allons encore penser à vous dans la prière, que le Seigneur soit avec vous. Avez-vous remarqué quelle pensée sérieuse, déjà dans la parole d'introduction, ont été exprimées? La comparaison entre Zacharie, qui au moment où il avait d'abord des moments pour croire, il était âgé. Élisabeth était âgée. Ils avaient des problèmes pour croire que cela soit possible. Et ensuite, l'ange Gabriel lui a dit, tu ne devras plus pouvoir parler. Tu seras muet jusqu'à que la prophétie s'est accomplie. Et ce conseil, ou bien alors cet ordre, le Seigneur le donne à ou bien ce conseil, le Seigneur le donne à tous. Si nous ne pouvons pas encore croire l'accomplissement des Écritures maintenant, sois muet, ne parle pas, reste tranquille jusqu'à ce que cela soit accompli. Ça, c'est dans la Bible, c'est écrit. Et ça, c'est la grande leçon que nous devons tous apprendre. Quand Dieu parle, quand Dieu donne des promesses, ce n'est pas tes soucis. Comment est-ce que les promesses vont s'accomplir? Ce n'est pas ton souci. Dieu, lui, il a pris toute la responsabilité pour tout ce qu'il a prononcé et tout ce qu'il a promis. Et là, nous avons tout de suite la comparaison. Comment est-ce que Marie a réagi? Elle aussi, elle disait, je ne connais aucun homme. Comment est-ce que cela doit se passer et soit possible? Mais dans leur cœur, dans son cœur, elle savait, quelque chose se passait. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait, qu'il me soit fait, comme tu l'as dit. Ça, c'est ta disposition, c'est ma disposition. Aujourd'hui et pour toujours, qu'il me soit fait, qu'il nous soit fait comme tu l'as promis, comme tu l'as dit pour cette époque, car ta parole est vraie. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Mais votre main, mettez votre, avec notre main sur le cœur, est-ce que nous ne pouvons pas aussi dire qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux? Alléluia. Loué et exalté soit le Seigneur notre Dieu qui rassemble son peuple de tous les peuples, les langues et les nations encore une fois et pour la dernière fois pour parler avec nous. Et il faut que cela soit dit. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes déjà au milieu de la prédication. Bon, nous demandons aux parents de venir avec l'enfant devant et ensuite, en temps nous chantons pendant qu'ils viennent un chœur, qui propose un chœur de vous? De l'autre côté de la rive, à l'autre côté de la rive. Bien-aimé Seigneur, Dieu éternel fidèle, tu as accompli le cœur de nos bien-aimés frères, de notre bien-aimé frère et de notre bien-aimé sœur. Tu leur as accordé un fils en bonne santé. Il veut que cet enfant te soit consacré. Et ça, nous le faisons maintenant, en ton nom. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses agréer Élie, Jonas, comme un enfant qui t'appartient. Tu dis encore aujourd'hui, laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car à leur semblable appartient le royaume de Dieu. Tu as dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, c'est ainsi que vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé Seigneur, bénis toute la famille et qu'il soit une bénédiction. Et à toi, le Dieu Tout-Puissant, nous consacrons Élie Jonas pour ce temps et pour toute éternité. Sois béni, sois consacré à Dieu dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Amen. Amen. Très bien, très bien. Bien-aimé Seigneur, tu as donné à nos bien-aimés frères et sœurs ce fils, ce Philippe, et nous te l'apportons. Lui aussi, qu'il te soit consacré pour ce temps et pour toute l'éternité. Bien-aimé Seigneur, bénis toute la famille et sois avec eux. Ici, toi le Dieu Tout-Puissant, Nous te exprimons la reconnaissance aussi pour ce jour, dans le saint nom de Jésus. Sois consacré à Dieu pour ce temps et pour toute éternité, pour l'honneur de Dieu, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant que c'est fini, bien aimé, tu ne pleures plus, que Dieu te bénisse. Qui propose encore un cœur? Ensuite, les deux sœurs sont là. Je voudrais voir. Vous pouvez vous asseoir.
Tu doch die Arbeit von Gott dir gegeben, du sie mit Liebe die Zeit eilt dahin.
Fais le travail
was
que Dieu t'a ordonné de faire, car le temps est avancé. Rien ne restera de la vie,
Liebe,
seulement
nur kein irdischer Gewinn. Nichts ist hier bleiben,
nichts une œuvre en son nom, dans l'amour,
alles
en son nom, pour l'amour du nom de Jésus, demeurera éternellement,
vergehen.
Car tout passera.
Nur was getan ist aus
seulement
Liebe
ce qui est fait par amour pour Jésus,
das behält wird und wird ewig bestehen.
Et demeurera éternellement.
Opfre die Zeit nicht den nichtigen Sorgen,
ne sacrifie pas
hilf den Gebundenen und lindre den Schmerz. Lass dein Licht scheinen so klar wie der Morgen, weiß auf den Heiland, der Ruhe gibt ins Herz. Nichts ist hier bleiben,
le chemin qui mène au Seigneur, consacre-toi à lui. Sur terre,
alles
rien ne restera.
Auch wird einmal vergehen.
Tout passera.
Nur was getan
seulement
ist aus Liebe zu Jesus,
ce qui a été fait dans la volonté de Dieu
und wird ewig bestehen.
Conserve sa valeur et demeure éternellement.
All deine Arbeit und Leiden für Jesus,
tout ton travail et tes souffrances pour Jésus,
und schätzt ihren Wert.
Estime la valeur.
Da finden wir wieder Früchte der Saat, die wir streuten auf Erd.
Le fruit
bleiben,
de l'ensemencement que nous avons
bleiben,
sur terre.
Alles wie schön,
tout passera.
Wird einmal
tout passera.
Vergehen. Nur was getan
seulement ce qui
ist aus Liebe
a été fait
zu
dans la
Jesus,
volonté de Dieu et par amour pour Jésus.
Behält wird,
conserve sa valeur et demeure éternellement.
Bestehen. Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend.
Tout passera,
alles wie schön
demeure en dehors de la parole de Dieu. Quoique tout ce qui semble
nur
être beau, seulement ce qui est fait dans la volonté de Dieu par amour pour Jésus. Conserve sa valeur et demeure éternellement.
Amen. Amen.
Il y a la parole, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Quelle certitude, n'est-ce pas, est dans la parole de Dieu. Par la parole, tout a été appelé à l'existence. Les choses visibles et les choses invisibles, tout a existé que par la parole de Dieu, seulement parce que Dieu les a prononcées. Et ce qu'il a prononcé a eu lieu, s'est accompli, a existé. Au commencement était la parole. Celui qui prend ce mot-là en hébreu trouve le mot « dabar ». Dabar, pas seulement en grec, logos. Le logos est chaque parole. Ce qu'un politicien prononce, n'importe quelle parole que quelqu'un en langue grecque pourrait utiliser est logos. Tout mot. Mais quelqu'un doit l'avoir prononcé. Et dans la forme hébreu, la relation est rétablie avec la personne qui l'a prononcé. Que pas seulement la parole qui est prononcée, mais le mot fait mention de celui qui a prononcé la parole, celui qui a ordonné, celui qui a dit que la lumière soit et que la lumière fut. La relation se réfère à la personne, pas seulement comme le logos en grec, une parole qu'on peut entendre, mais aussi faisant référence à celui qui a prononcé cette parole. C'est ainsi que nous sommes dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Nous avons ce jour en tant que jour de la Bible. Nous avons annoncé ce jour en tant que le jour de la Bible. Donc, à cause de la joie que nous avons d'avoir pu laisser imprimer cette Bible. Et ici, à la troisième page, tout au début, il est dit édition spéciale pour le Centre missionnaire de Krefeld. C'est un cadeau, c'est un don que cela a été possible par la société de la Bible allemande à Stuttgart. Je suis reconnaissant à Dieu pour cela et j'ai déjà dans d'autres langues dit aux frères, vous allez dans une lettre circulaire et dans une brochure, recevoir, traiter les différents versets qui ont été corrigés dans toute la Bible pour informer le peuple de Dieu dans toutes les différentes langues. Et encore aujourd'hui, déjà, nous avons aussi les salutations de nos bien-aimés frères et sœurs d'Israël. Et aussi en Israël, il y a un petit groupe qui se rencontrent et ils disent des salutations d'Israël adressées à vous tous. Nous avons l'année 5675. Nous sommes déjà un peu plus avancés. Nous sommes déjà à l'année 2007. Ça n'a pas d'importance comment est-ce que le calcul du temps est placé. Nous avons une vue d'ensemble claire dans l'histoire du salut d'Adam jusqu'à Abraham, à peu près 2000 années, d'Abraham jusqu'à Christ, à peu près 2000 années. Et maintenant, nous avons de nouveau 2000 années accomplies et ensuite reste encore un seul jour, le dernier jour, le jour du Seigneur. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants de ce que, à la fin du temps de la grâce, nous pouvons vivre encore et voir la visitation divine dans sa grâce personnellement. comme ici dans Luc chapitre 4, autrefois cela fut lu, c'est ainsi qu'aujourd'hui, de nouveau, nous pouvons aussi le dire, cette écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Ce n'était pas l'homme Paul ou bien l'homme Esaïe, ce n'était pas Jean le Baptiste, c'était la sainte onction, l'Esprit de Dieu se reposait sur eux. Conduit par l'Esprit de Dieu, de saints hommes au nom du Seigneur ont parlé et ça, comme témoin oculaire, je peux ici le confirmer. Frère Branham n'a jamais eu l'enseignement d'une, n'a jamais représenté ou bien représenté, oui, l'enseignement d'une église ou bien d'une confession. Il a seulement parlé et corrigé la confession. Il n'a pas donc représenté et il ne s'est pas mis du côté de toutes ces différentes confessions qui ont été inventées à Nicée et dans d'autres conciles. Donc, il s'est mis à part de tout cela sans considérer les opinions humaines. Il a prêché la vraie et véritable parole de Dieu pour que l'Église, avant le retour de Jésus-Christ, soit édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et pour nous, la parole de Dieu n'est pas seulement un raisonnement et des paroles, des mots. Pour nous, la parole de Dieu est la semence divine dans laquelle la vie, le germe de vie divin se trouve, tel que dans chaque semence naturelle, il y a un germe de vie. Et que ce germe de vie sort, devient visible à l'extérieur seulement quand cette semence est semée et que la pluie tombe et que le soleil brille sur la semence et que la semence meurt pour que la vie qui est cachée dans cette semence, dans ce grain, puisse sortir. Jésus-Christ, le grain de blé qui est tombé en terre et mourut, a produit beaucoup de fruits et beaucoup de fils ont été conduits à la gloire, comme c'est écrit dans Hébreux 2, au verset 10. Et déjà, Jean a annoncé à l'avance ce qui allait se passer au commencement. Il a son Il nettoiera son air, purifiera son air et il mettra son blé dans son grenier. Lui le Fils de Dieu, nous les fils et les filles de Dieu. Lui né de l'Esprit et né dans ce monde, de la même manière, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier. C'est ainsi que nous aussi nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu pour une espérance vivante. Ici est vraiment le mystère de notre Seigneur qui est devenu homme. Nous avons déjà eu souvent à le dire. Il devait venir dans la création déchue, tombée, et ici est la comparaison avec Ève, qui s'est laissée séduite, qui n'est pas restée dans sa position originale, dans laquelle elle aurait dû rester, et pour rester liée avec Adam. Mais Marie, elle est restée telle que elle fut née dans ce monde, elle n'a pas été touchée et séduite, rien. Elle est restée vierge, car c'était une vierge qui devait enfanter, selon la prophétie, et un enfant devait naître. Et c'est ainsi que cela s'est accompli tel que Dieu, le Seigneur, déjà dans tout l'Ancien Testament, l'avait prophétisé, laissé annoncer à l'avance. Cela est à lire dans Matthieu, le premier chapitre, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, et ensuite dans Luc, chapitre 1, du verset 30 au verset 31, c'est là qu'il nous est exactement dit ce qui s'est passé. Et si ensuite nous allons dans les épîtres des apôtres, alors là nous ressentons la manière avec laquelle, dans les détails, toutes ces choses ont été exposées et montrées. Comment est-ce que toutes ces choses devaient s'accomplir pour nous, pour que dans ce corps de péché, nous puissions recevoir le salut, la rédemption, jusqu'à que ce corps soit transformé lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, le corps a été aussi racheté. Donc, le corps de chair appartient à la rédemption. D'abord, l'âme et l'esprit. L'âme est sauvée et l'esprit est délivré. Et ensuite, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la transformation de notre corps auront lieu. La rédemption de notre corps, la délivrance de notre corps. Nous voulons lire quelques versets bibliques, car dans les jours de la Bible, la parole de Dieu, comme déjà souvent exprimée, doit être prêchée, placé sur le chandelier. Le ciel et la terre passeront. Toutes les interprétations passeront. Tout passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et si la parole en toi et en moi est, alors nous demeurons éternellement avec la parole. Donc, seulement encore pour ceux qui veulent lire Matthieu 1, verset 21 et Luc 1, verset 30 au verset 31, je voudrais lire la parole du psaume 22, verset 10 et 11. Psaume 22, verset 10 et 11. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Depuis ta naissance, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Et il est notre Dieu, parce que Dieu est devenu notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le premier-né entre plusieurs frères. Une parole de Néhémie, dans Néhémie que j'ai lu aujourd'hui, qui montre comment est-ce que Dieu a conduit son peuple et comment est-ce que les siens l'ont invoqué et ont expérimenté et vu sa majesté et ont prêché sa gloire, sa majesté éternelle et sa gloire. Dans Néhémie chapitre 9, à partir de la deuxième partie du verset 5, lèvez-vous, louez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on loue ton nom glorieux qui est au-dessus de toute louange et de toute bénédiction. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. Bien-aimés frères et sœurs, sans que nous nous voudrions nous moquer de quelqu'un, mais s'il vous plaît, soyez sincères. Qu'est-ce que cette théorie d'un Darwin, d'un Darwin, pourrait produire comme effet dans un croyant? Pourrait produire comme effet dans un croyant? Nous ne sommes même pas prêts à écouter une telle théorie. Parce que en nous avons reçu déjà la parole véritable de Dieu. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Ensuite, il est dit ici, au verset 12, et ça, je voudrais insister là-dessus rapidement parce que dans notre temps, dans nos jours, cela a été répété tel que cela était du temps de Moïse, du temps de Noé. Ici, Néhémie chapitre 9, verset 12, au verset 12, Néhémie 9, verset 12, « Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. » Quelle parole merveilleuse! Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Il n'a pas seulement appelé son peuple à sortir et ensuite remis ce peuple à Moïse. Non, il est allé devant ce peuple. Il a marché devant ce peuple dans la colonne de feu et dans la nuée pour montrer au peuple de Dieu le chemin qu'il devait suivre. Moïse lui-même ne connaissait pas le chemin. C'était seulement Dieu le Seigneur qui connaissait le chemin par lequel il devait passer. Mais nous savons exactement quand le peuple arriva à la mer Rouge, Dieu parla à Moïse et lui a dit, « Lève ta verge sur la mer et je vais la diviser. » Dieu a toujours pris ses serviteurs à son service et Dieu lui-même était présent pour confirmer ce qu'il leur avait ordonné de faire. Moïse a fait qu'élever la verge, a fait qu'obéir. C'est Dieu qui a divisé la mer. C'est Dieu qui a divisé la mer. Et ensuite, c'est ainsi qu'aucun serviteur de Dieu reçoit la gloire ou bien reçoit un honneur. Non! Mais tel que nous le chantons et que nous en sommes convaincus, nous donnons l'honneur seulement à Jésus. Dans Néhémie, le chapitre 9, nous lisons encore les versets 19. Néhémie 9, verset 19 maintenant. Néhémie, chapitre 9, verset 19. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Non, la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Ni de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. La fin du verset 19. Alléluia. Pour leur éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Colonne de feu le jour et colonne de feu la nuit et colonne de nuit le jour. Et le Seigneur lui-même était dans cette colonne de feu et de nuée et il a parlé de cette colonne de feu à Moïse de face à face. Et bien aimés frères et sœurs, nous avons dans les prédications du frère Branham toujours de nouveau entendu qu'il disait, pendant qu'il appelait la lignée de prière pour prier pour chacun individuellement, il attendait jusqu'à que cette colonne de feu, cette lumière surnaturelle descende et se tienne sur la personne pour laquelle il devait prier. Et c'est peut-être raison que à frère Branham, le 7 mai 1946, vers 23 heures le soir, il lui fut dit, tel que à Moïse, il a été donné deux signes. C'est ainsi que deux signes te seront donnés. Et s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au deuxième. Et Dieu n'a pas seulement prononcé une commission, un appel et donné un mandat, un envoi. Il a accompli sa parole. Il a accompli les Écritures. Il a accompli les promesses, disant, voici, je vous envoie le prophète Élie. Cela est écrit dans Malachie, chapitre 4, verset 5, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Le frère Müller a, n'est-ce pas, parlé de Jean, le Baptiste, qui disait, je ne le connaissais pas. Quoi que Marie et Élisabeth étaient des cousines, Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Celui qui m'a envoyé m'a parlé et m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre, c'est lui, c'est lui. Oui. Et ensuite, Jean a dit, je l'ai vu et je rends témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu, le Sauveur d'Israël. De vrais serviteurs de Dieu n'ont pas seulement un message, ils avaient la confirmation surnaturelle de Dieu dans leur ministère. C'est ainsi que c'était dans l'Ancien et c'est ainsi que c'était dans le Nouveau Testament. Et c'est ainsi que c'est encore aujourd'hui, c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, je l'ai aussi expérimenté, que Dieu confirme sa parole, a confirmé sa parole. Le Seigneur n'est pas le « j'étais », mais il est le « je suis », toujours le même. Dans Exode 3, le serviteur de Dieu a posé la question, « Qui es-tu? Comment est-ce que tu t'appelles ?» Car ils m'en demanderont, « Qui t'a envoyé ?» Comment est-ce qu'il s'appelle? Le Seigneur a dit à Moïse, « Dis à mon peuple, le « Je suis » m'a envoyé. Le « Je suis » le « Je suis » m'a envoyé. Il est le grand « Je suis » encore aujourd'hui. Donc, celui qui aujourd'hui trouve la grâce de Dieu devant Dieu, il croit aussi les promesses. Il voit aussi les promesses dans leur accomplissement. Pour tous les autres, le message divin vraiment ne signifie rien. Ils restent dans leurs traditions et dans leurs enseignements et pensent servir le Seigneur. Mais il est écrit, et cela est la parole de notre Seigneur, « Je bâtirai mon Église, pas 375 églises libres, soit des chrétiennes, mais le Seigneur a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et ensuite, nous venons à Jean 17, « Père, toi en moi, et moi en eux, pour qu'ils soient un. » Pas unis sous Rome, mais unis sous Jésus-Christ, la tête de l'Église. Et c'est là que la séparation a lieu parmi le peuple de Dieu. Toutes les religions, et encore une fois, tous, s'unissent sous Rome, car c'est le dernier empire mondial, comme cela nous est dit dans le prophète Daniel, le chapitre 2 et dans le chapitre 7. Mais l'Église de Jésus-Christ n'est pas une union politique, mais elle est le corps du Seigneur, la troupe rachetée par le sang. Et c'est là que notre Seigneur, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, dit, Vous n'êtes pas de ce monde, tel que je ne suis pas de ce monde. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean 14, vous n'êtes pas de ce monde. Et ensuite, l'expression merveilleuse arrive. S'ils ont cru ma parole, ils croiront aussi votre parole. La foi vient de Dieu, est un cadeau, est un don de Dieu. Et au moment où la parole nous est révélée, c'est à ce moment-là que la foi devient la puissance de Dieu pour nous, par la grâce de Dieu. Dans le psaume 33, nous avons les citations merveilleuses sur la parole du Seigneur. Jour de la Bible. La Bible est la sainte et précieuse parole de Dieu. Psaume 33, verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est véritable. Amen. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. C'est ainsi. Il aime la justice et la droiture. La grâce de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée. Par le souffle de sa bouche. Oui, c'est écrit ici au verset 7. Il émoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Verset 9. Quel témoignage merveilleux. Des hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Nous ont transmis ce qu'ils ont reçu révélé et ce qui était important pour eux et révélé par Saint-Esprit. Maintenant arrive quelque chose de très particulier au verset 10 et 11 et 12 comme comparaison. Psaume 22, verset 10, 11 et 12. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Bon, fini. Et ensuite, suit, au verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Les desseins de l'Éternel subsiste à toujours. Il a anéanti les projets des peuples, renversé les desseins des nations. Et il a dit, mon dessein subsiste à toujours et les projets de mon cœur de génération en génération. Et Paul écrit même là-dessus et dit, je vous ai prêché tout le dessein du salut de notre Dieu. Qu'est-ce que nous devons dire dans ce temps? Après l'ouverture des sceaux, si déjà autrefois Paul a pu dire qu'il a prêché tout le conseil du salut, qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui après l'ouverture des sceaux et l'introduction dans tout le conseil de Dieu, dans tout ce qui avait été caché avant même la fondation du monde? Dieu l'a révélé dans nos jours. Il est descendu sur terre dans la colonne de feu. Que cela soit su et connu. Et je vous demande de la crainte devant Dieu le Seigneur. Alors que frère Branham rendait témoignage de ce que ce jour-là, du 7 jusqu'au 24 mars 1963, vers l'après-midi à 14 heures, La colonne de feu descendait dans sa chambre et que le Seigneur directement, de manière surnaturelle, a révélé chaque sceau, a révélé le sceau duquel il devait parler le soir du même jour. C'était le Seigneur, s'il vous plaît, qui dans la nuée surnaturelle était apparu, avait apparu et donné l'ordre à Jean et à Frère Branham. Repars à Jason ville, car le temps d'ouvrir les sept sceaux est arrivé. Bien, mes frères et sœurs, c'était pas le plan d'un homme. C'était dans le plan de Dieu. C'était voulu par Dieu dans son conseil, dans son dessein. Dans le prophète Daniel, au chapitre 12, au verset 4, il est écrit, scelle le livre, ferme-le jusqu'à la fin des temps. Pas pour toujours, mais jusqu'à la fin des temps. Et c'est seulement après que ce livre sera révélé. Si ensuite nous allons dans Apocalypse, où il est parlé de l'ouverture des sceaux, les premiers quatre sceaux sont un parallèle à, au temps des âges des églises dans les sept époques par laquelle elle a passé, car c'est ainsi que déjà dans l'Ancien Testament, dans Zacharie le chapitre 4, cela avait été prophétisé que par le sept, et cela par le sept chandelier de sept branches, c'est ainsi que Jean-Baptiste dans l'île, sur l'île de Patmos, dans Apocalypse 1, a vu ce chandelier. Il vit le chandelier avec sept branches et il vit le Fils de l'homme marcher parmi les sept chandeliers d'or, déjà dans son état de gloire, de transfiguration, marchait parmi les sept chandeliers d'or. Et il avait les sept étoiles qui sont sept anges de l'Église, sept messagers dans sa main droite. Qu'est-ce que cela nous dit? Les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas dans la main d'un homme, entre les mains des hommes. Ils ne sont pas des serviteurs d'une église ou bien d'une église libre. Les vrais serviteurs de Dieu sont dans la main du Seigneur, entre les mains du Seigneur. Et c'est par eux que la parole de Dieu est révélée à l'église et il apporte à l'église. C'est ainsi que cela est montré dans Apocalypse, le premier chapitre, tout de suite dans les premiers versets, c'est-à-dire Apocalypse, premier chapitre, à partir du verset 1, révélation de Jésus-Christ. Nous avons déjà eu à le dire ici, bien-aimés frères et sœurs. Ici, réellement, nous avons le mot grec apocalypsis. Et ça signifie, dans notre langue, dévoiler, révéler. Si par exemple nous couvrons quelque chose et que nous ne savons pas ce qui est caché derrière ce voile, personne ne savait, personne ne l'a vu. Donc dévoiler, découvrir la révélation de Jésus-Christ. Le voile a été ôté. Nous pouvons maintenant le voir en tant que celui qui était, qui est et qui sera et qui vient. En tant que le Dieu Tout-Puissant qui, de différentes manières, pour notre salut et pour l'accomplissement de son dessein du salut, s'est révélé. Que ce soit que les Saintes Écritures le présentent en tant que fils de Dieu, le décrivent en tant que fils de Dieu, en tant que fils d'Abraham, en tant que fils de David, en tant que fils de l'homme, que les Saintes Écritures le décrivent en tant qu'agneau de Dieu, en tant que médiateur ou avocat, ça n'a pas d'importance de quelle manière. Partout, c'est toujours une relation au dessein du salut de notre Dieu qui existe dans les différentes révélations de notre Seigneur. C'est toujours une relation avec l'Église. C'est toujours une révélation avec tout ce qui appartient au dessein du salut de notre Dieu. Bon, la révélation de Jésus-Christ. Révéler, dévoiler, découvrir. jamais dans ce laps de temps de ces 2000 années, la révélation de Jésus-Christ a été apportée au peuple de Dieu dans cette clarté comme dans notre temps. Et frère Branham était réellement le seul qui, dans notre temps, pouvait dire « J'ai vu l'ange de l'Éternel souvent, souvent, mais Jésus-Christ, mon Seigneur, je l'ai vu seulement qu'une seule fois sur un champ de blé debout. » Dans un champ de blé. Notre frère a été un homme de Dieu qui a reçu la grâce de Dieu qui pouvait s'approcher du Seigneur. C'est Dieu qui choisit. Et ici, c'est un point très important. Nous pourrons poser la question, est-ce que le Saint Dieu peut parler à un homme qui vit de chair et de sang? Est-ce que cela est possible? Mais je vous pose la question, qui était le prophète? Mais je vous pose même la question, qui était David? À qui le Seigneur, toujours de nouveau, parlait, montrait des visions, et était avec lui. Ils entendaient la voix du Seigneur audiblement. Et il lui avait été dit à David, jamais il ne manquera une descendance de toi sur le trône, car c'est ainsi que la promesse vint concernant Jésus-Christ, le fils de David. Dieu n'a pas pu comme ça s'arrêter aux opinions des hommes. Non, par sa présence, il a sanctifié l'homme, il a mis l'homme à part et il a mis sa parole dans les prophètes pour qu'il puisse nous la transmettre. Il ne s'est pas arrêté parce que c'était que des hommes. Non, ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il voulait faire. Mais en Jésus-Christ, Seigneur, toute la plénitude de la divinité a habité corporellement, car en lui, la parole est devenue chair, est devenue une réalité. Revenons maintenant à Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Maintenant, suis la raison. Pourquoi est-ce que Dieu lui a donné cela? C'était pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est peut-être raison qu'il a reçu la révélation de Jésus-Christ. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est ainsi que c'était autrefois sur l'île de Patmos. Et Dieu a le droit de faire ce qu'il veut faire et ce qu'il a conclu dans son conseil du salut, dans son dessein. Et si quand frère Branham parle de l'ange de l'Éternel qui vint à lui et qui lui donna des ordres, qu'est-ce qui doit avoir eu lieu avec Jean? Alors ici il est écrit que c'est par l'envoi de son ange que il lui a été fait connaître toutes ces choses. Connaître toutes ces choses. Donc, faire connaître tout ce qui devait être montré aux autres serviteurs. Ici est la chose importante et extraordinaire, comme souvent nous avons eu à le dire. Ce que Dieu révèle à un de ses serviteurs, c'est toujours révélé pour tous les autres serviteurs de Dieu, dans la même époque et dans toutes les époques, pour qu'ils puissent transmettre la parole telle qu'elle a été révélée à ce serviteur, la transmettre au peuple de Dieu. La révélation de Jésus-Christ. Mais la condition, c'est que le même Saint-Esprit de Dieu qui se reposait sur ce serviteur à qui ces choses ont été révélées et l'action surnaturelle de Dieu qui a confirmé cette parole vienne aussi sur nous, soit en nous et nous conduise. Et c'est ainsi que ici, au verset 2, dans Apocalypse chapitre 1, verset 2, il est dit, « Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu et entendu. » Apocalypse 1, verset 2. Bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez aujourd'hui aller dans chaque pays, parcourir chaque ville. La révélation Donc l'Apocalypse est pour tous encore un livre, est resté pour beaucoup un livre scellé de sept sceaux. Tous, quand ils ouvrent l'Apocalypse et lisent, ils font qu'interpréter toutes ces différentes images et symboles. Mais frère Branham n'a rien interprété. Il n'a rien interprété. Il a reçu la révélation, la signification, l'introduction dans tout ce qui avait été montré à Jean dans ces 22 chapitres de l'Apocalypse. Et je vous le dis sincèrement, pour moi, c'est un grand privilège. Alors que frère Branham, en décembre 1962, me disait que, en raison d'une vision, d'un ordre qu'il a reçu en janvier 1963, il va déménager à Tucson, Arizona, parce qu'il avait vu une vision reçue du Seigneur. Je l'ai déjà vu ici, dit ici, ou bien deux fois ici, il vit en vision que quand la ville allait refaire la rue dans laquelle il habite, allait agrandir la rue dans laquelle il habite, et que son cadre devant la maison serait enlevé et placé et comme ça, enlevé et déposé comme ça sur la rue, alors ce sera le moment où l'ouverture de sceaux aura lieu. Et moi, frère Frank, en 1962, j'ai vu les bulldozers sur cette rue sur laquelle frère Branham habitait. De mes propres yeux, j'ai vu l'accomplissement de la vision que frère Branham avait vue. Tel que frère Branham l'avait vu, j'ai vu les bulldozers sur sa rue, ayant l'intention d'agrandir la rue. Bien de mes frères et sœurs, je suis pas comme ça quelque part, entré dans une chose, sauté dans une chose. Pendant 10 ans, j'ai connu personnellement frère Branham, et j'étais en contact étroit avec lui en Europe et aux États-Unis. J'ai vu son ministère s'exécuter et je suis témoin direct, oculaire, de ce que Dieu a fait dans nos jours, dans notre temps. Et c'est ainsi que aussi le moment vint où le Seigneur me révélait ce qui est lié à ce ministère. Et je vous dis, réellement, je suis passé donc de clarté en clarté, de révélation en révélation. Et aujourd'hui, nous avons réellement une vue d'ensemble extraordinaire et une introduction dans tout le dessein du salut de notre Dieu, aussi dans la parole prophétique. Peut-être que cela s'ajuste ici, à sa place ici. Vous savez, peut-être qu'on peut le dire ici, en septembre, j'étais en Philippines, j'étais en Indonésie, maintenant en septembre, et j'étais dans les pays justement de l'Est-Sud de l'Asie, et réellement, jeudi, le 13 septembre, j'ai vécu l'effet du tremblement de terre de Sumatra. En direct, j'ai vécu ce tremblement de terre. J'étais à Medan, entre Medan et Sumatra, à peu près 600 km du tremblement de terre. Et subitement, Octavius me dit, frère Frank, regarde le plafond. Et nous remarquions même pas que nous étions en train d'être balancés dans cette maison. Et nous avons regardé le plafond. Un lapendaire, donc une lampe de salon énorme, et le lampadaire de salon balançait de droite et à gauche de manière majestueuse. Un lustre, pas seulement comme ça, 3 secondes. Il continuait comme ça à être ballotté. Il a reçu réellement des coups terribles et balançait devant nous comme ça de tous côtés. Et j'ai pensé à la parole de notre Seigneur qui avait parlé de la fin des temps et aussi des tremblements de terre dans Matthieu et dans les évangélistes. Il disait, quand vous ferez ces choses, et maintenant je suis, n'est-ce pas, dans le hall de l'hôtel, Malheureusement, ce nom s'appelle Tiara, mais c'est pas grave. Bon, c'est ainsi que j'ai vécu ce tremblement de terre. J'étais dans l'endroit où cela avait lieu. Et j'ai eu dans le cœur de penser à ce que, quelle grâce nous avons de vivre justement dans l'époque où s'accomplit ce que le Seigneur a dit. Tout ce qui a été annoncé à l'avance, tout ce qui allait s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, dans la dernière époque, dans les derniers actes, dans les derniers moments de son retour, que nous avons la grâce de pouvoir voir toutes ces choses devant nos yeux. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, est-ce que nous sommes conscients, entièrement conscients de la grâce que nous avons reçue de Dieu, le message de l'heure, la parole de la promesse, l'accomplissement des prophéties bibliques par la grâce de Dieu, de pouvoir voir tout cela de nos yeux. Est-ce que vous savez quel privilège Dieu, par sa grâce, nous a accordé? De ce que nous ne sommes pas assis comme ça quelque part et à écouter des histoires qui sont racontées et garnies souvent dans des prédications. Non, mais que nous avons la grâce d'écouter la vraie parole claire de Dieu. Oui, et d'en donner tout à sa place. Ça, c'est notre devoir. C'est le devoir que le Seigneur nous a confié. Et nous acceptons cette responsabilité reçue de Dieu en face de son peuple. De ce que par le ministère des apôtres et des prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans tout le résumé, par le ministère de Frère Branham, dans tout son résumé par le ministère de Frère Branham, toutes ces choses ont été révélées et confiées. La chose confiée et révélée, nous avons le privilège de transmettre cela au peuple de Dieu dans la prédication de la parole de Dieu, et notre devoir est réellement de laisser tout dans sa forme initiale, dans sa forme originale, chaque parole de Dieu et chaque citation de Frère Branham. Nous devons les laisser dans son contexte et dans sa formulation originale, telle que la Bible a été interprétée et le sens a été tordu. C'est ainsi que les citations de Frère Branham sont aussi tordues et interprétées. Et chaque interprétation des Écritures et des prédications de Frère Branham égare. Et c'est toujours l'œuvre du diable d'interpréter et de tordre le sens. Il le fait pour piéger les hommes. Mais à cet endroit, le piège du diable est ôté. Et on montre en quoi est-ce qu'il piège. Il met les gens dans son piège. Et en quoi est-ce que des frères veulent attirer à leur suite des disciples. Chaque interprétation et chaque enseignement étranger que chaque frère représente a pour objectif que des disciples viennent à sa suite, et cela par toute cette interprétation là, c'est par cela que cela a lieu, que dans une seule ville les gens peuvent se réunir dans différents endroits. C'est à cause, parce qu'ils ont différents esprits, il y a des interprétations et des explications. Nous sommes là pour prendre notre orientation seulement par et dans la parole de Dieu. Et cela demeure pour toute éternité. Si nous voulons être prêts pour l'éternité, nous devons comprendre que la parole nous a été confiée et que tel que Jésus-Christ était la parole pure, la semence pure qui fut promise depuis le jardin d'Éden et 213 fois dans la Bible, il est parlé de la semence, de la descendance, et nous sommes la semence de Dieu. La semence promise d'Abraham était Christ. Et c'est en Christ que tous les peuples de la terre doivent être bénis. Ensuite, nous avons toutes les promesses et tous les versets bibliques dans la parole de Dieu. Nous pouvons avec droit prétendre que nous ne sommes pas suivis des fables habilement conçues, mais la parole révélée de Dieu, la parole prophétique est notre lumière à notre sentier. Et nous voyons, n'est-ce pas, toute la parole. Elle est notre lampe à notre chemin, à nos pieds. Mais il est écrit particulièrement, Pierre écrit, faisant mention de la parole prophétique, disant qu'elle ne permet aucune interprétation particulière. Et malgré tout que les prophéties ne permettent pas cela, ils se permettent de le faire, d'interpréter les prophéties. Laissez-moi dire cela aujourd'hui. Celui à qui la parole et la révélation de Dieu, la volonté de Dieu est révélée, il n'interprète plus, il croit seulement comme le dit les Écritures, sans interpréter. Et celui qui explique et qui interprète, ça veut dire que la parole de Dieu, la Bible, ne lui a pas encore été révélée. Alors qu'aujourd'hui, en cet endroit, cela ait lieu, que ce soit réellement un jour de la Bible, un jour que le Seigneur lui-même a fait, pour toi et pour moi, pour nous tous, a fait un jour qui nous rend joyeux parce que nous avons compris par la grâce de Dieu ce que Dieu a fait en nous. Nous venons tous d'ici et de là et nous avons été appelés à sortir de différents endroits. Qui t'a appelé, qui m'a appelé, qui nous a appelés? Et au moment où nous suivions le Seigneur, c'est à ce moment-là que l'opprobre est venu sur nous. Nous n'avons plus été compris de tous les autres moments où nous voulions seulement suivre le Seigneur. Chaque église de laquelle nous sommes sortis ne nous comprend plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans l'endroit où ils étaient. Mais quand Dieu sur terre fait quelque chose de nouveau, alors, il ne continue pas son œuvre avec le vieux système, mais il dit, voici, je rends toutes choses nouvelles. Aussi dans nos jours, Dieu a fait un nouveau commencement par sa grâce pour de nouveau rétablir toutes choses dans l'état primitif et ramener tous dans la foi des prophètes et des apôtres. Et cela, ça appartient aussi le baptême biblique d'eau. Nous avons déjà eu à le dire hier. Et il faut que cela soit dit aussi aujourd'hui. Tous baptisent dans les titres de cet enseignement, la Trinité, dans cette formule. Et malheureusement, si par exemple, un dignitaire spirituel dans une église, que ce soit luthérienne, ou bien évangélique, ou bien anglicane, catholique, orthodoxe, les premières paroles qui sont prononcées, c'est « elles sont faites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Dans les titres. Et cette formulation n'est pas écrite une unique fois dans la Bible. Et c'est après l'année 325 dans le concile de Nicée. Avant le concile de Nicée de 325, cette formulation Père, Fils, Saint-Esprit n'a pas été connue. Il n'a pas existé. Il est dit dans Colossiens 3 encore, tout ce que vous faites en action, en parole et en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3. Tous savaient qu'il n'y a pas un autre nom qui aurait été donné aux hommes sous le ciel dans lequel ils seraient sauvés. Ils seront sauvés en dehors du nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il est écrit dans le prophète Joël, celui qui invoque le nom du Seigneur, avant de pouvoir invoquer le nom du Seigneur, il faut que je puisse connaître le nom du Seigneur. Si on me dit, oui, le nom du Seigneur, c'est Père. Non, il a dit, tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Tous ces gens, aussi, dans tous ces lieux de pèlerinage dans les forêts, peuvent réciter un Ave Maria, l'une après l'autre. À quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça sert? Ils ont prié pour rien. Et cela fait mal au cœur. C'est une douleur. C'est de l'égarement et de la confusion. Et l'humanité ne le sait pas. Il faut que cela soit dit au monde entier. De dire à haute voix, revenez au Seigneur. Revenez à sa parole. Revenez au modèle des Saintes Écritures. Revenez à ce que les apôtres et les prophètes ont fait et ont enseigné. donc revenir à la parole de Dieu. Celui qui ensuite lit les Saintes Écritures avec attention va ou alors se retrouver lui-même dans les Écritures ou alors ne pas se retrouver avec de l'imagination, avec de l'orgueil, avec de l'imagination. Nous ne devrions pas nous satisfaire. Nous ne jugeons pas, mais soyez sincères, chaque communauté est convaincue d'elle-même de croire de manière correcte et d'enseigner juste. Il n'y a qu'une seule, et malgré tout, il n'y a qu'une seule Bible, mais cette Bible est tordue et interprétée de toutes sortes de manières. Et tous ont leur propre confession de foi qu'ils ont placée, établie, et donc ils ont aussi à côté la confession de foi commune, et ensuite ils ont aussi leurs différents enseignements. Mais où reste Dieu? Où est Dieu? Où est le respect devant les Saintes Écritures? Où est le modèle du temps des apôtres? Où est ce modèle du temps des apôtres? Mais notre Seigneur dit encore aujourd'hui, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prouveront pas contre elle. Pensons encore à la parole d'Ésaïe chapitre 40, alors que le ministère de Jean-Baptiste fut annoncé à l'avance, à partir du verset 3, et ensuite le verset 10 se suit. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et Pierre, dans sa première épître, chapitre 1, du verset 18 au verset 25, dit, et il a prêché la parole. Et pour finir, avec la prédication, il dit, mais cette parole que nous avons prêchée, qui demeure éternellement, c'est l'Évangile. Oh, quelle harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette harmonie est à retrouver dans les Saintes Écritures. Est-ce que tu te retrouves dans ce que tu crois dans les Saintes Écritures? Est-ce que tout, tu le retrouves ordonné dans le modèle biblique? Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême? Est-ce que cela t'a été révélé? Ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, ici il est écrit de la parole de notre Seigneur, cela est à lire dans Jean 17, au verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Donc Jean 17, verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. La vie éternelle ne vient pas par une pratique religieuse, mais elle vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 17, verset 2, au verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On peut parler de vie éternelle, mais on peut aussi la recevoir. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Encore une fois, que cela soit dit, l'obéissance va à la foi, va ensemble avec la foi, et la foi va ensemble avec l'obéissance. Est-ce que Jacques, et que cela soit le dernier verset que nous lisons, est-ce que Jacques n'a-t-il pas, de manière claire, dans son deuxième chapitre, est-ce qu'il n'a pas écrit là-dessus, disant que la foi ne suffit pas? Elle suffit pour accepter Jésus-Christ, mais il faut que la foi, qu'à la foi suive l'obéissance. Il faut qu'à la foi suive l'obéissance. Dans Jacques chapitre 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Maintenant arrive la confirmation. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Verset 22, Jacques 2, verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, les œuvres de la foi, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Au verset 23, ainsi, c'est seulement à ce moment-là que s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu le Seigneur qui puisse nous bénir et qui nous aide. Je sais que ce jour est aussi un jour que le Seigneur a fait. Je sais que même au-delà de cela, je sais que nous avons compris tout de la bonne manière et que la parole de Dieu dans vos cœurs a été révélée. Vous avez compris que nous faisons que transmettre ce que Dieu a déjà accordé. Et vous avez une part entière à cela et vous croyez comme le dit les Écritures. Et c'est peut-être raison que vos yeux et que vos oreilles et que vos cœurs sont bienheureux. Oh, bienheureux es-tu, toi qui as cru. Oh, bienheureux es-tu. Parce que tu peux croire. Et comme Marie avait reçu la semence divine, c'est ainsi que, comme vierge sage d'avoir reçu la semence incorruptible de la parole de Dieu, la semence divine. Et le Saint-Esprit vient sur nous, et la puissance du Très-Haut nous couvre de son ombre. Et la semence sort, c'est-à-dire le germe de vie qui est dans la parole, sort. Et ainsi, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Que tous ceux qui ne sont pas encore baptisés bibliquement, aujourd'hui, aient l'occasion de se laisser, après cette réunion, baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons encore la possibilité, dans une eau chaude, sous un soleil, de nous laisser baptiser. Ça, c'est aussi un cadeau de Dieu pour lequel nous sommes reconnaissants. Êtes-vous reconnaissants tous pour la parole de Dieu, pour la révélation par le Saint-Esprit? Alors nous voulons nous lever et ensemble remercier le Seigneur. Je demande au frère Rousse qu'il puisse encore venir et prier avec nous tous. Combien veut être inclus dans cette prière? Avons-nous des requêtes particulières? Regarde bien mes frères, prononce la parole de la foi. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions de tout nos cœurs pour ta parole encore ce matin. Car par ton Saint-Esprit et par ta parole, tu as parlé avec nous. Et les hommes, les frères et les sœurs sont prêts à te servir de tout leur cœur. Encore ta grâce, nous te le demandons en ton Saint-Nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui ont levé leurs mains. Quoi qu'il demande, béni par ta grâce, il répond. Nous te le demandons dans ton merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Qu'il soit avec nous tous.